Jésus-Christ vient nous rencontrer. Une rencontre nécessite au moins deux personnes, bien entendu. Et puis, il y a celui qui accueille et celui qui est accueilli. Ou celle qui est accueillie, bien entendu. Et parfois, il y a une rencontre où celui qui accueille et celui qui est accueilli sont sur un pied d'égalité. Puis d'autres fois, il y a quelqu'un qui accueille, qui est au-dessus, et l'autre qui est en dessous. Mais aujourd'hui, peu importe, parce que tous et toutes, nous sommes accueillis par notre Seigneur, et il vient à notre rencontre. Et c'est à la fois une rencontre avec quelqu'un qui est notre Seigneur, notre Maître, qui est au-dessus de nous, et en même temps, il est aussi notre frère. Nous rencontrons en lui notre frère. Alors, en son nom, bienvenue à chacune et chacun. Si jamais au cours du culte vous avez soif, il y a de l'eau qui est là-bas, vous pouvez vous déplacer, ne vous gênez pas. On est tous une famille, on n'a pas envie que quelqu'un tombe en inamitié, tombe dans les pommes, comme on dit, parce qu'il a soif. Alors, ne vous gênez pas. Nous voici déjà le cinquième dimanche de l'été, le 28 juillet, au milieu des vacances. Et nous redécouvrons aujourd'hui un bout de l'histoire de Ruth, cette étrangère. Et nous allons chercher avec elle à glaner et comprendre des enseignements, ce qu'elle a découvert et ce que nous avons aussi, nous avons à découvrir. Découvrir avec elle cette rencontre qui a totalement changé sa vie. Et je suis aussi heureux parce que nous pouvons profiter, nous en tant que chrétiens des deux communautés réformées et évangéliques ici à Mérin, de nous rencontrer et de célébrer ensemble notre Seigneur. Nous l'avons déjà fait 4 fois cet été et il y en aura encore 3 après aujourd'hui. Et nous voulons vraiment célébrer ensemble. Tout à l'heure, les enfants se retrouveront en bas avec Daniel, après que nous aurons chanté et loué le Seigneur. Mais tout d'abord, je vous invite à prier. Seigneur, accompagne-nous pendant ce moment de culte auquel tu nous as toi-même conviés. Seigneur, nous t'attendons. Nous avons besoin de te rencontrer et de nous rencontrer les uns les autres. Donne-nous maintenant de vivre ce culte ensemble et d'ainsi manifester la vie que tu veux faire jaillir de nous. Viens, Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint, nous remplisse de sa présence et de sa puissance. Amen. Et je vous invite à chanter le premier chant, « Nous venons dans ta maison ». C'est le 21-18 si vous voulez suivre dans le recueil, mais vous pouvez aussi simplement lire ici.
Thank you.
Et nous voulons adresser notre louange au Seigneur en écoutant ce que lui aussi a à nous dire. Parce que louer Dieu, ce n'est pas seulement lui dire que nous l'aimons, que nous apprécions tous ses bienfaits, c'est aussi recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. C'est lui faire confiance. C'est nous tourner vers lui pour lui demander de nous aider lorsque nous en avons le besoin. Aussi, je vous invite à louer le Seigneur en écoutant le psaume 121. Je regarde vers les montagnes, qui viendra me secourir ? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur gardera ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et toujours. Amen. Et je vous invite à chanter. Alors voilà, je vous invite à chanter le 47-12, « Il faut qu'en Dieu l'on se confie ». Il est temps pour les enfants de descendre, mais j'aimerais d'abord qu'on prie pour eux. Seigneur, nous te remercions pour les enfants que tu nous donnes. Et tu nous as dit que tu les aimais tout particulièrement parce qu'ils sont simples et purs devant toi et que tu nous les donnes en exemple pour notre foi. Sois avec eux maintenant, sois avec Daniel qui les accompagne et qu'en toute chose tu sois présent pour eux aussi. Amen. Nous vous laissons y aller. Nous entrons maintenant dans un moment d'écoute de la parole de Dieu. Et avant de lire et d'écouter, nous voulons encore prier. Père, en Jésus-Christ qui est ta parole, tu te révèles à nous. Rends-nous capables, grâce à ton Esprit Saint, d'assimiler cette parole et de la comprendre entièrement. Nous pourrons ainsi en vivre chaque jour et laisser jaillir de nous la vie que tu nous donnes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lisons maintenant la parole de Dieu. Oh là 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 là. Je ne sais pas s'il y a un problème de pile. Ruth, chapitre 3. Noémie, sa belle-mère, dit à Ruth, « Ma fille, je dois chercher à assurer ta sécurité pour que tu sois heureuse. Voici ce que nous allons faire. Boaz, notre parent, dont tu as fréquenté les servantes, ira ce soir battre l'orge sur son aire. Lave-toi, parfume-toi et recouvre-toi d'un manteau. Ensuite, rends-toi sur l'aire de battage, mais ne te montre à personne avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il ira se coucher, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et allonge-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Je ferai tout ce que tu m'as dit, répondit Ruth. Ruth se rendit à l'aire de battage et fit tout ce que sa belle-mère lui avait recommandé. Boaz mangea et but, ce qui le mit d'excellente humeur. Puis il alla se coucher à l'écart de son tas de gerbes. Ruth s'approcha sans bruit, écarta la couverture et s'allongea à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu ? » demanda-t-il. Elle répondit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité du proche parent qui a droit de rachat. » Boaz lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Cette preuve de fidélité que tu viens de montrer est encore plus grande que la précédente. En effet, tu n'es pas allé auprès de jeunes gens, riches ou pauvres. Et maintenant, ne crains rien, ma fille. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la population sait que tu es une femme de grande valeur. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité du proche parent qui a le droit de rachat. Mais il existe un homme qui a un degré de parenté avec ta famille plus proche que le mien. Passe ici la nuit, attendons demain matin, et nous verrons s'il veut exercer son droit de rachat à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je l'affirme, aussi vrai que le Seigneur est vivant, j'exercerai mon droit de rachat à ton égard. En attendant, reste couché jusqu'au matin. » Ruth resta couchée au pied de Boaz, puis elle se leva avant l'heure où l'on peut reconnaître quelqu'un. Boaz se disait, « Il vaut mieux qu'on n'apprenne pas que cette femme est venue en cet endroit. » Il lui dit, « Enlève le foulard que tu portes et tiens-le bien. » Elle le tint et il versa 6 mesures d'orge qu'il l'aida à charger. Ensuite, il retourna à la ville. Ruth revint chez sa belle-mère. Celle-ci lui demanda, « Comment cela s'est-il passé, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que Boaz avait fait pour elle. Elle ajouta, « Il m'a donné ses 6 mesures d'orge en disant, « Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. » Noémie lui dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Boaz ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. »
Voilà, bonjour. Alors voilà, nous continuons de parcourir ensemble ce livre biblique de Ruth en 8 épisodes. L'épisode d'aujourd'hui, c'est juste la première moitié du chapitre qu'on a lu. Alors sans doute, il y a quelques répétitions, hein, mais aussi des richesses, des différentes approches des uns et des autres. Alors l'histoire se situe donc, au temps des juges. Cette période de l'histoire du peuple juif où ils ont trouvé un pays où s'établir après la sortie d'Égypte où ils étaient des esclaves. Un pays, mais pas un royaume à cette époque, juste un assemblage de tribus. Et là, on est à plus d'un millénaire avant Jésus-Christ. Mais l'histoire est écrite bien plus tard. Sans doute à un moment où le peuple d'Israël a perdu une bonne partie de ses repères. Les grandes puissances de l'époque avaient mis la main sur leur territoire, le temple avait été détruit, une partie du peuple emmenée en exil. Au cours de 2 déportations successives. Et naturellement, ceux qu'on emmène en exil, c'est principalement les notables, pour mieux affaiblir durablement le peuple soumis. Cependant, au bout d'environ 2 générations, un nouvel empereur arrive au pouvoir avec une vision un peu différente de sa gestion des pays soumis, les exilés à Babylone peuvent rentrer au pays, et ils se mettent à reconstruire les murailles et le temple. Mais comme on l'a déjà dit dans les précédents messages, les Israélites se posent plein de questions sur leur identité. À un moment, par exemple, le prêtre Esdras, qui était le maître d'œuvre de toute cette reconstruction, interdit les mariages avec des étrangères. Et il fait même renvoyer femmes et enfants. Avec l'histoire de Ruth, on a une perspective différente, hein? Bien différente. Et ce n'est pas anodin que ça soit justement Ruth qui soit mentionnée dans la généalogie de Jésus. Mais ça, vous le verrez surtout au dernier épisode. Mais je trouve dans la Bible très intéressant qu'il y ait cette espèce de dialogue interne entre différents points de vue. Que finalement, la Bible ne nous donne pas des espèces de recettes morales prêt à porter, mais elle nous invite à penser, elle nous invite à réfléchir. Il faut dire que c'est aussi à cette époque que se cristallisent plus ou moins les textes bibliques tels qu'ils nous sont parvenus. On peut peut-être dire que c'est grâce, hein, si on peut dire, au traumatisme vécu par ce peuple qui s'est mis à construire une identité non plus sur des rites, un territoire et un temple, mais sur une parole. Sur une parole qui raconte l'action de Dieu dans l'histoire et qui s'ouvre sur l'universel, parce que ce n'est pas seulement le Dieu de ce peuple, c'est le Dieu de tous les humains. Et c'est cette vision-là qui va être au cœur de l'Évangile. Alors, dans cette histoire de Ruth, on est dans une vieille histoire, mais qui se répète souvent aujourd'hui. À un moment de famine, un notable s'expatrie dans le pays voisin, pays de Moab, avec sa femme et ses deux jeunes fils. Il y a des commentateurs juifs qui y voient une fuite. Élimélec, mon Dieu et roi, a failli à ses responsabilités d'aider ses compatriotes dans une période difficile. Mais en fait, le texte biblique raconte juste une histoire sans juger. Alors la famille refait sa vie dans un pays honni, hein, un pays réputé dépravé, et les deux garçons, naturellement, ils épousent des Moabites. Mais les trois hommes meurent les uns après les autres, les trois femmes se retrouvent toutes seules, et après une dizaine d'années, elles ont quitté le pays. Naomi, pleine de grâce, se met en piste de rentrer au pays. Comme Naomi, pleine d'amertume, accompagnée d'une de ses belles filles. Elle arrive les mains vides. C'est la honte. Moi, j'ai travaillé au Laos, dans la mission évangélique, sous d'autres... il y a très longtemps, c'était les dernières années de la guerre du Vietnam. Fin d'une guerre, bouleversement complet avec l'arrivée de nouveaux régimes communistes, ça a provoqué à cette époque l'exil de 3 millions de personnes pendant une vingtaine d'années. Alors moi, j'ai été impliqué dans l'accueil des réfugiés, etc. J'ai vu des personnes, mon principal contact avec le Laos aujourd'hui, un médecin dont le témoignage est assez extraordinaire, il est resté au service de son pays. Lui, il aurait pu partir facilement parce qu'il avait un ancien médecin missionnaire là-bas qui l'aurait bien aidé s'il avait décidé de partir avec ses enfants. Puis j'ai mon autre collègue de Lyon, pasteur laotien, qui retourne souvent au Laos maintenant, lui, il s'était bien intégré dans la nouvelle administration communiste, mais un beau jour, il y a un copain qui lui explique qu'il est sur une liste noire. Ni une ni deux, du jour au lendemain, il est parti avec sa jeune épouse. Je ne sais plus si elle était enceinte ou si leur première fille était déjà née, mais voilà, il est parti dans l'urgence. Alors ça, c'est des parcours de vie qui sont souvent présents encore aujourd'hui. Mais ceux qui sont partis sont parfois mal vus chez eux quand ils retournent. Et puis, on pense que parce qu'ils sont venus dans un pays riche, ils sont riches. Alors qu'ils ont en fait la vie assez dure. Moi, j'ai vu des familles qui était au Laos, qui recevait des photos de leur parenté aux États-Unis, devant un immense frigo rempli ou une belle voiture, parce qu'il fallait absolument montrer qu'ils avaient réussi. Et aujourd'hui, combien y a-t-il de ces gens de migrants qui sont venus chez nous, qui ne sont pas très bien là, mais ils n'osent pas retourner chez eux, tellement c'est la honte de ne pas avoir réussi. Alors voilà, ces deux femmes sont rentrées, mais elles ne restent pas les bras ballants. C'est le temps des moissons, ça c'était le chapitre précédent, c'est le temps des moissons et Ruth se met en tête d'aller glaner. Par chance, on nous dit, par chance, elle se trouve dans le champ d'un notable de la parenté de sa belle-mère et qui se montre bienveillant. Par chance, parce que ce n'était pas gagné d'avance, c'était très risqué. Mais la chance, ça sous-entend dans ce livre, ça sous-entend dans ce livre qui parle discrètement de l'action de Dieu, qui a une action de Dieu en coulisses. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai le sentiment et même la conviction dans différentes circonstances de la vie, de ma vie, de mon parcours, en particulier dans mon engagement au Laos, qu'il y a une action de Dieu qui dépasse nos idées, nos pensées, nos projets. Mais j'hésite aussi à l'évoquer. Parce que c'est vrai, quand des personnes affirment de manière trop péremptoire, « Ah, ça, c'est la preuve que Dieu agit dans ma vie », voilà, des fois, je suis un petit peu mal à l'aise, parce que c'est une preuve pour moi, peut-être, mais est-ce que je peux en faire une preuve pour d'autres ? J'hésite. Mais là, dans notre épisode du jour, ce sont bien Naomi et Ruth qui vont prendre les choses en main et qui vont donner un sacré coup de pouce à la chance. Car bon, pouvoir glaner en toute sécurité dans un champ sous la protection d'un propriétaire bienveillant, comme la fois dernière, ça remplit la marmite pour quelques jours, mais ce n'est pas une solution à long terme. Dans le contexte de l'époque, la seule solution pour une femme, c'est d'être sous la protection d'un mari. Mais les lois et les coutumes de l'époque étaient bien organisées quand même, avec le devoir pour le frère de quelqu'un qui est décédé, ou un parent, d'épouser la veuve pour en prendre soin. C'est ce qu'on appelle le Lévira et qui est pas seulement dans le peuple d'Israël, qui a été très répandu dans le Moyen-Orient. Alors, Naomi prend les choses en main. Elle veut assurer la sécurité. Elle dit, d'ailleurs, sous cette forme, « Je veux que tu sois heureuse » à sa belle-fille. Donc, on est bien dans le concret de l'existence, assurer la subsistance et les vieux jours. Alors Naomi prépare un stratagème de séduction. Elle explique en détail à Ruth qui se met en piste. Comme nous le disait Agnès dimanche dernier, c'est pas trop dans les normes sociales ce qu'elle fait là. Et bon, les enfants sont en bas, on ose relire un bout du texte. Voici ce que nous allons faire. Boaz, notre parent dont tu as fréquenté les servantes, ira ce soir battre l'orge sur son aire. Lave-toi, parfume-toi, recouvre-toi d'un manteau. Ensuite, rends-toi sur l'aire de battage, mais ne te montre à personne avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il ira se coucher, observe bien la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et allonge-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. « Je ferai tout ce que tu m'as dit », répondit Ruth. Ruth se rendit à l'aire de battage et fit tout ce que sa belle-mère lui avait recommandé. Boaz mangea et but, ce qu'il mit d'excellente humeur. Puis il alla se coucher à l'écart de son tas de gerbes. Ruth s'approcha sans bruit, écarta la couverture et s'allongea à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz se réveilla en sursaut, se pencha en avant et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu ? » demanda-t-il. Elle répondit « C'est moi, Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité du proche parent qui a droit de rachat. » La suite est naturellement pour le prochain épisode. Une belle histoire de séduction, racontée de manière toute naturelle. Même s'il ne s'est rien passé, hein, pour utiliser l'euphémisme moderne. Le récit serait sans doute encore plus explicite dans l'original hébreu. On a ici un exemple de cette manière naturelle et positive avec laquelle la Bible évoque la sexualité. Quelque chose de beau qui fait partie de la création. Assez loin de l'image de morale étriquée qu'on a souvent de la Bible et du christianisme. Et aussi bien différent de ce qu'une certaine éducation de mon époque nous a transmis. Un sujet tabou. Je sais pour ma part que cette incapacité à parler des choses intimes a été un handicap dans mon parcours. Sans doute pour les nouvelles générations, elles sont plus libres, plus ouvertes, mais elles sont aussi confrontées à d'autres problématiques. Maintenant, on a bien une scène de séduction, mais ce n'est pas pour le plaisir d'une nuit. D'ailleurs, le bonhomme est endormi après un bon repas, bien arrosé. Et le voilà qui se réveille en sursaut, surpris de voir cette femme couchée à ses pieds. Alors Ruth s'explique, « Veuille me prendre sous ta protection. » Sous-entendu, « Épouse-moi. » Alors si la manière est assez peu conventionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire, l'objectif de la demande, l'objectif et cette demande sont parfaitement légitimes. D'ailleurs, dans Lévitique 19, qui explique les règles du Lévirat, un cas de refus, il y a une cérémonie qui était prévue, lors de laquelle la femme repoussée allait cracher au visage du beau-frère qui ne voulait pas l'épouser, lui ôter ses chaussures, puis le désigner ainsi à la honte publique. Mais là, Ruth, puis sa belle-mère aussi, est déjà persuadée que cet homme, qui a déjà démontré sa bienveillance, va répondre favorablement la semaine prochaine. Pour cette courte séquence, je trouve intéressant comment ce texte combine la providence divine, si vous voulez, et une providence divine discrète, et puis l'action, l'initiative humaine. En l'occurrence, une initiative toute féminine. On dit parfois que Dieu a un plan pour notre vie. Je ne suis pas si sûr. Dieu nous fait des signes, il ouvre des portes, il ferme des portes, il nous appelle à certaines choses, à certains lieux, tout en laissant toute la place à l'initiative humaine, je le crois. L'année dernière, on a un peu à l'occasion des 25 ans de notre service fraternel d'entraide qui travaille dans l'aide au développement au Laos, on a un peu revisité ces 25 ans et même les longues années qui ont précédé. Puis on s'aperçoit qu'il a fallu beaucoup d'actions humaines, hein, des nombreuses visites dans le pays, de différentes personnes, beaucoup d'engagement, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, mais aussi, à certains moments, des ouvertures par des moyens où on pouvait rien faire par nous-mêmes et qui montrent une espèce d'action de Dieu à bien plus long terme, je pense, de quelque chose qui nous dépasse. Alors ici, c'est bien l'initiative d'une femme et d'une étrangère qui est mise en valeur. Ce qu'on pourrait vérifier à chaque épisode d'ailleurs, et qui va prendre une dimension encore plus grande à la fin du récit. Mais cette histoire me semble avoir une pertinence toute particulière aujourd'hui, face à toutes sortes de replis identitaires qu'on voit autour de nous. Aux réactions de peur face aux étrangers, réactions de peur face aux musulmans. Cette semaine, les médias suisses nous rapportaient les résultats d'une enquête chez les jeunes qui montrait une augmentation significative de sentiments anti-étrangers, de sentiments homophobes, de sentiments antisémites et de sentiments islamophobes chez les jeunes, hein, genre les jeunes de 20 ans, enfin, je ne sais pas exactement l'âge. Mais voilà, c'est une réalité d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a un témoignage par rapport à ça. Et je pense aussi au problème des migrations, qui sont des causes hein, de ces peurs, des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en fermant les frontières, ni d'ailleurs en les ouvrant à tout vent. Je sais que c'est des questions complexes, mais par ailleurs, on sait déjà que d'ici quelques dizaines d'années, peut-être même un peu plus tôt que ça, avec le réchauffement climatique, certaines régions du monde qui sont actuellement densément peuplées deviendront progressivement inhabitables. Mais on n'a pas d'autre choix que de coopérer pour résoudre les problèmes. Alors voilà quelques éléments d'aujourd'hui où je crois que ces textes bibliques ont une très grande pertinence. Alors que cette histoire de Ruth puisse nous inspirer dans notre vie quotidienne par son ouverture, son universalisme, par la manière dont elle valorise la femme, par la manière dont l'étranger est valorisé et accueilli, et puis aussi par ces exemples de bienveillance, de fidélité et de confiance en Dieu. Amen.
Je vous invite à chanter maintenant au 45-21 « Trouvez dans ma vie ta présence ». pouvez prendre place. Je vous invite à proclamer ensemble notre foi en Dieu et en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous le faisons tous ensemble, en disant tous ensemble ce texte. Dieu, Père, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans les étapes de ma vie. Je crois que tu m'appelles par mon nom, comme un père de tendresse, et que tu fais de moi ton enfant. Jésus-Christ, je crois en toi, homme de mon histoire, Seigneur du monde avec le Père, tu es pour moi promesse et espérance que la vie dépasse la mort. Tu m'envoies pour dire aux autres à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi. Souffle d'amour, respiration de mes prières, secours de mes pas. Fil conducteur du Père au Fils, comme tu l'es entre nous tous. Amen. Et je vous invite encore à chanter, c'est le numéro 21-14, les mains ouvertes devant toi. Vous pouvez prendre place. Nous entrons maintenant dans un moment de la Sainte Cène que nous voulons partager ensemble. Le Seigneur nous nourrit. Il l'a fait pour Noémie et Ruth en leur fournissant de l'orge afin qu'elles aient à manger. Et il le fait également pour nous. Pour cela, il s'est donné lui-même. Il est le pain qui calme notre faim. Il est le vin qui étanche notre soif. C'est une grâce qu'il nous fait de nous nourrir en partageant le repas qu'il a lui-même institué. Il nous l'offre maintenant. Nous avons dressé la table, mais c'est Jésus le Christ qui nous accueille, lui par qui toutes choses sont faites nouvelles. Il nous nourrit, il nous désaltère, il nous donne son esprit. Il fait ainsi de nous un seul peuple, son corps, son Église. Proclamons sa grandeur en chantant « Saint est le Seigneur ».
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. »
Seigneur, tu es digne de recevoir la louange de la part de tes filles et de tes fils. Tu as donné ta vie pour nous et nous t'en remercions. Par toi, la faim qui nous tenaillait était oubliée et la soif dont nous souffrions est apaisée. Tu es intervenu pour nous. Nous réclamons maintenant sur nous et en nous la présence de ton Esprit Saint. Par lui, nous serons capables de discerner ta présence dans ce repas que tu nous offres. Permets que nous vivions ce partage comme le signe que tu fais de nous, les uns avec les autres, un seul corps, ton Église, le rassemblement de ceux qui t'ont accueilli et qui ont mis leur confiance en toi. Amen. Voici, dit le Seigneur, j'entrerai chez celui, chez celle qui m'ouvre la porte, et ensemble, nous partagerons le repas. Je vous invite à faire cercle autour de la table. On fait venez, puis on fait tout au bord, au fond. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas envie de communier. Nous vous demandons de venir dans le cercle et vous faites juste un petit signe au moment où nous passerons devant vous. Nous allons passer devant vous avec le pain, vous distribuer un morceau de pain que nous vous demandons de garder et pour le tremper ensuite dans la coupe, soit de vin, soit de jus de raisin. Il y a deux coupes de vin, je demanderai à quelqu'un de donner un coup de main pour en prendre une, et une coupe de jus de raisin. Voilà.
Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ, au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous. Par lui, nous formons un seul corps.
La coupe de bénédiction, pour laquelle nous disons merci à Dieu, est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandue pour nous pour le salut de tous les humains. la coupe de jus de raisin a un ruban, un petit ruban bleu, on ne voit pas très bien. L'autre, les deux autres sont du vin. Je ne sais pas si... Tu me donnes un coup de main ? Voilà.
Je passe très bas.
D'accord. Ok. On va demander encore.
Il faut te laver les mains. Je veux bien.
Tu prends les deux autres, s'il te plaît. Merci. Donc, comme il n'y a qu'une coupe de jus de raisin, si vous voulez du jus de raisin, vous levez la main.
Et puis, on fait par extraction.
Voilà, là, oui, ça fait du
actif. Ah, prends les deux. Prends les deux vins.
Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as accueillis à ta table, tu nous as nourris, tu nous as désaltérés, nous te disons merci. Nous allons avec la force que tu nous donnes, par la présence de ton esprit et de ton amour que tu fais habiter en nous. Nous allons sans crainte, sachant que tu prends soin de nous et de nos proches. Amen.
Nous invitons à reprendre place. Il n'y a pas beaucoup d'annonces, sinon le culte de dimanche prochain qui aura lieu à l'église évangélique au village. Il y aura également un culte à Satigny et un à Vernier. Tous ces cultes auront lieu à 10h. Mercredi 31, des grillades sur le terrain à côté de la chapelle du village à partir de 19h environ. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, sinon que nous vous invitons à rester un moment après à la sortie pour partager quelques bricoles et boire un petit peu. Pas trop. Enfin, si c'est de l'alcool, avec modération. Nous vous invitons à entrer dans un moment de prière. Seigneur, nous nous approchons de toi avec toutes nos questions, nos doutes, nos incapacités à être des témoins de l'espérance que tu veux nous faire vivre et manifester. Nous te prions pour notre monde où l'espoir de vivre en paix est si souvent déçu. La guerre et la violence règnent partout et jusque chez nous et même en nous. Seigneur, interviens et donne-nous de savoir comment être signe de ta présence dans notre monde tellement en recherche de la paix. Seigneur, nous sommes partis de ton Église présente partout dans notre monde et nous pensons aux chrétiens du monde entier, à nos frères et sœurs, pauvres, persécutés ou dans la joie. Mais donne à chacun la joie qui vient de toi et la force de regarder à toi. Renouvelle leur espérance que tu es toujours et à jamais avec eux. Seigneur, nous te prions pour notre Église, pour notre paroisse, pour chacun de ses membres et pour ses responsables. À chacun, à chacune, donne une vision de ce que tu veux. Et nous te prions pour les personnes dans la peine, dans le deuil, ou qui sont malades. Toutes et tous, nous te les donnons dans notre cœur. Nous te remettons nos préoccupations et tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Et nous faisons silence pendant que nous déposons tout cela à tes pieds. Parce que tu es notre Père, nous pouvons nous adresser à toi comme ton Fils nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons encore chanter le chant 49-19, tu es là au cœur, 47-19, tu es là au cœur de nos vies. Et pendant que nous chanterons, nous recueillerons aussi notre offrande. Et après le chant, je vous demande de rester debout pour l'envoi et la bénédiction. Seigneur, nous avons donné un peu de ce que nous possédons et qui, en définitive, vient de toi. Que cela soit utile pour l'avancement de ton règne. Amen.
Voilà, après la bénédiction, nous rasseyons pour écouter le dernier morceau de musique. Qu'il soit béni par le Seigneur qui garde sa bonté pour nous les vivants comme pour ceux qui sont morts. Telle était une prière de Naomi à propos de Boaz dans le chapitre précédent. Mais soyez vous aussi bénis par le Seigneur, que sa bienveillance se fasse sentir pour vous tout au long de cette semaine et en toutes circonstances. Et que cette bienveillance vous a, et que le Seigneur vous anime de cette bienveillance envers chacun dans votre quotidien. Amen.
Merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci Annelise.